Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un événement planétaire, la mort du pape François. Le souverain pontife s'est éteint hier soir pour nous à l'âge de 88 ans. Il était 7h35 du matin, ce lundi de Pâques. Le pape François était en convalescence depuis plus d'un mois après une pneumonie bilatérale et il avait fait une dernière apparition la veille, le jour de Pâques, où depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, il avait béni les fidèles pour la dernière fois lors de la bénédiction Urbi et Orbi. Selon le certificat de décès publié par le Vatican, le pape est mort d'un accident vasculaire cérébral qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. C'est le cardinal irlandais Kevin Farrell qui assure l'intérim pour les affaires courantes qui a annoncé le décès du souverain pontife.
Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer le décès de notre Saint-Père François. Ce matin à 7h35, l'évêque de Rome, Monseigneur François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Nous confions l'âme du pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu Trinité.
De Dio Uno et Trino.
Le pape François avait été élu à la tête de l'Église catholique le 13 mars 2013, il y a 12 ans, pour succéder à Benoît XVI, qui avait renoncé à sa charge. Il avait été élu 266e pape de l'Église catholique. François a été appelé le pape des pauvres ou encore le pape des migrants. Retour sur ses 12 ans de pontificat avec Louis Salé pour Europe 1.
Buonasera.
C'est son premier mot de pape, le seul jusqu'ici originaire du continent américain. Le cardinal Bergoglio choisit de s'appeler François, en hommage à ce saint emblème de pauvreté, un thème sur lequel il n'hésite pas à prendre parti, quitte à s'attirer des critiques. Fils d'une famille d'immigrés italiens résidant en Argentine, Bergoglio rappelle souvent ses origines modestes et son enfance dans les quartiers pauvres de Buenos Aires. Il a, à 17 ans, là-bas, une révélation et intègre la Compagnie de Jésus, l'ordre religieux des Jésuites. Une fois nommé pape, François doit assumer les révélations d'abus sexuels commis au sein de l'Église à travers le monde. Et l'une des clés pour sortir de cette crise, rééquilibrer le pouvoir dans la hiérarchie catholique, moins d'entre-soi au sein de la curie romaine, le gouvernement du Vatican. Le pape y introduit des laïcs et même des femmes. Autre originalité, c'est le premier pontife à cohabiter pendant 10 ans avec un autre pape, Benoît XVI. François salue à de nombreuses reprises cette idée révolutionnaire introduite par son prédécesseur. Un pape peut désormais démissionner. Dans sa dernière autobiographie Espère, publiée en janvier, François exhorte les catholiques à poursuivre ses combats. « Je ne suis qu'un passage », écrit-il, avant de mettre le point final.
L'émotion est très vive partout dans le monde. À l'annonce du décès du pape François, une première prière publique s'est tenue hier place Saint-Pierre au Vatican. Les catholiques du monde entier présents pour les célébrations de la Semaine Sainte se sont retrouvés pour prier et rendre hommage au pape François.
J'ai bien aimé ce pape. Venant du Liban, je sais qu'il a beaucoup prié pour le Liban, pour la Palestine, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et ça se voit que c'était une belle âme, donc c'était important pour moi de venir et célébrer sa vie. Et de prier, oui.
Oui, je suis aussi venue méditer en famille avec mon mari et mon fils, et je raconterai cela à ma fille. Quand je rentre à la maison, c'est un temps de prière, et le Père François nous a toujours encouragés à prier pour tous. Peut-être la seule voie pour la paix.
À Paris, les cloches de la cathédrale Notre-Dame ont sonné 88 fois, 88 coups, comme les 88 ans du pape François. Les fidèles s'y sont rassemblés pour une prière publique et un livre d'or a été mis à disposition pour y laisser des messages d'hommage. La tour Eiffel a été éteinte en signe de deuil. Les dirigeants du monde entier rendent hommage au pape François. En déplacement à Mayotte, Emmanuel Macron a été l'un des premiers à s'exprimer pour saluer un homme qui a toujours été du côté des plus fragiles.
Ça a été la vocation d'un homme, d'un religieux, d'un évêque, puis d'un cardinal et d'un pape qui, tout au long de sa vie, s'est battu pour plus de justice. Tout au long de sa vie, s'est battu pour une certaine idée de l'humanité, c'est-à-dire une idée fraternelle. Et c'est celle dans laquelle je crois beaucoup se retrouver. Je sais la douleur que beaucoup aujourd'hui ressentent. Je veux leur dire le soutien de la France, le soutien personnel ainsi que celui de mon épouse. Nous pensons évidemment à la fois à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé, à l'ensemble des catholiques. Merci beaucoup.
À l'étranger, plusieurs chefs d'État ont rendu hommage au pape François. La correspondance de Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
A commencer par Donald Trump. Quelques mots brefs, pas plus. Repose en paix, que Dieu le bénisse ainsi que tous ceux qu'il aime. Un hommage court mais respectueux. Les deux hommes ont souvent été en désaccord, notamment sur la question migratoire. Autre réaction, celle de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien salue un pape qui a prié pour la paix, même si ses positions ont parfois été critiquées lorsqu'il avait condamné l'Ukraine alors agressée par la Russie. Vladimir Poutine d'ailleurs lui a aussi réagi. Il parle du pape comme d'un défenseur de la justice et de l'humanisme, tout comme Giorgia Meloni. Écoutez, la première ministre italienne.
On avait un lien personnel extraordinaire. C'était un pape avec lequel on pouvait parler de tout et j'ai eu ce privilège-là.
Enfin, émotion aussi au Royaume-Uni. Dans un communiqué, le roi Charles III s'est dit profondément attristé par cette perte. Le monarque avait rencontré le souverain pontife le 10 avril dernier lors d'une audience privée.
Et la disparition du pape suscite également de nombreuses réactions en Calédonie, Elisabeth Noir.
Avec la réaction tout d'abord de Mgr Calvé, l'archevêque émérite de Nouméa. Il a bien connu le pape François, qu'il a rencontré une première fois quand ils étaient tous les deux encore évêques en 1994. Mais il l'a ensuite vu à plusieurs reprises et il retient sa simplicité.
Je l'ai rencontré plusieurs fois en tant que pape dans différentes visites à Rome. Ce qui était agréable avec lui, c'était sa simplicité. Parce que normalement, il y a tout un protocole à Rome et on respecte le protocole parce que c'est normal. Mais quelquefois, par exemple, je me souviens d'un détail, étant en voyage, je n'avais pas pu m'équiper de la tenue qui convenait, c'est-à-dire la soutane solennelle, la soutane filetée rouge, la tenue épiscopale. Et donc, j'étais en clergyman. Donc, je suis quand même allé le saluer et il m'a dit, mais c'est pas ça le problème. Je suis content de vous rencontrer. Donc, ce qui était bien avec lui, c'était cette simplicité. L'échange était facile et c'est intéressant, effectivement, à chaque personne. Et même quand on savait qu'il y avait des problèmes en cours, qui étaient quelquefois des problèmes difficiles, il recevait. Et quand il recevait la personne qui était là, présente. Il ne s'occupait pas d'autre chose. Et c'était précieux.
Mgr Calvé, l'archevêque émérite de Nouméa, et Mgr Sione Poé, le nouvel archevêque de Nouméa, devraient s'exprimer prochainement, notamment pour dire comment l'Église de Nouvelle-Calédonie s'associera au deuil du pape François. Ce matin, vous avez par ailleurs entendu la réaction du père Jean-Paul Pouillet. Réaction également du père Ngo, le curé de l'église du Vœu, qui parle d'un choc.
Eh bien, c'est un choc pour nous tous, puisque nous venons de célébrer la joie pascale à peine 24 heures. Et une telle nouvelle qui est opposée à la résurrection, puisque c'est le décès. Et on voit que la puissance de la mort règne encore dans le monde. Mais bien sûr, notre Saint-Père est rentré dans l'éternité, dans la joie de la résurrection. Et tristesse pour nous humainement, mais spirituellement, comme il est appelé à Dieu le lendemain de la fête de Pâques, c'est aussi un signe très, très, très positif et glorieux pour nous. Pour moi au moins.
Des propos recueillis par Kalinda Boakou. Réaction également du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a appris avec une grande tristesse le décès de sa sainteté, le pape François. Dans un communiqué, le gouvernement indique que le pape François a marqué l'histoire contemporaine de l'Église catholique par son humilité, son engagement en faveur des plus démunis, son souci de justice sociale et son appel constant à la paix. Il aura été un guide spirituel majeur pour des millions de croyants à travers le monde, ajoute le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui rappelle qu'au cours de son pontificat, le pape François a porté une attention particulière au territoire d'outre-mer, en nommant notamment plusieurs évêques dans les diocèses de Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, Guyane et de La Réunion. Le gouvernement adresse ses sincères condoléances à la communauté catholique de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à l'ensemble des fidèles éprouvés par cette perte. Et puis réaction également de Génération NC, qui adresse son soutien à la communauté catholique. Dans un communiqué, le parti souligne qu'en Calédonie, ce deuil résonne avec une intensité particulière. La communauté catholique, déjà meurtrie par des attaques contre les églises lors des exactions de mai dernier, perd aujourd'hui une figure universelle de réconfort, d'espérance et de fraternité, écrit Génération NC.
Et maintenant, une première réunion des cardinaux aura lieu ce mardi pour organiser les funérailles du pape François qui auront lieu entre vendredi et dimanche. Avant cela, dès mercredi, la dépouille du pape sera exposée dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui dire adieu. Le testament du pape révèle qu'il a demandé à être inhumé en la basilique Sainte-Marie-Majeure et non dans la basilique Saint-Pierre, comme ses prédécesseurs. Il demande une sépulture simple avec la seule inscription de son nom en latin. Dans 15 à 20 jours, 135 cardinaux se retrouveront en conclave dans la chapelle Sixtine pour élire un nouveau pape. Son élection sera signalée par la fameuse fumée blanche. La disparition du pape, nous y reviendrons aussi dans le magazine Citoyen à la fin de ce journal. Il sera sera consacré aux catéchumènes, ces adultes qui choisissent de recevoir les sacrements de l'Église catholique la nuit de Pâques. Ils viendront nous parler de leur parcours et leurs témoignages et réagiront bien sûr à la disparition du pape François. En attendant, il est 11h41, une première pause dans ce journal avant de parler de la visite prochaine de Manuel Valls en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Samedi 26 avril, de 8h à 13h, foncez au complexe Le 4. Vente flash sur les croquettes pour chiens et chats. Un pack acheté égale un offert. Vos animaux se régalent et la bande à nounous reçoit 10% des ventes. En plus, tentez votre chance pour gagner un an de croquettes, chiens ou chats. Offre valable uniquement le 26 avril. Plus d'infos sur Facebook Le 4. Le 4, 186 rue Jacques-Cacaoué. Faites vos courses autrement.
Le plaisir n'a pas d'âge. Rendez-vous les 25 et 26 avril à la Maison des Artisans pour la 4e édition du Salon des Seniors. Que vous soyez un senior actif cherchant de nouvelles activités ou un proche souhaitant découvrir les services d'aide et de santé pour soutenir nos aînés, le Salon des Seniors est conçu pour vous. De nombreuses animations seront au programme avec des parcours de santé, des ateliers ludiques et des thés dansants, mais également des sujets au cœur de l'actualité. Épargne retraite, santé, soins à domicile, c'est également l'occasion de découvrir sur place la carte senior et bénéficier d'offres préférentielles dans plus de 200 enseignes partenaires. Un événement Pacific Fair en partenariat avec la carte senior, EasyLock, Toyota et RRB.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le ministre des Outre-mer était hier l'invité de France 5 dans l'émission « C'est pas si loin ». Interrogé sur la Nouvelle-Calédonie, Manuel Valls annonce qu'il reviendra sur le territoire avec un projet qu'il mettra sur la table et il déclare qu'il faudra que les responsables politiques expliquent pourquoi ils ne seraient pas d'accord avec un compromis politique.
Il y a le sentiment d'un échec, de se vivre ensemble, de ce destin commun, mais il ne faut pas s'arrêter à ce sentiment. Il faut essayer d'embarquer évidemment les responsables politiques, il faudra qu'ils expliquent pourquoi ils ne seraient pas d'accord avec l'idée d'un compromis politique. L'État, c'est-à-dire le gouvernement, prendra ses responsabilités quelques jours, enfin le 30 avril ou le 1er mai, nous mettrons, avec Éric Thiers, qui est le conseiller spécial du Premier ministre, qui m'accompagne dans ce travail, nous mettrons un projet sur la table, qui évidemment évoquera l'idée d'une loi fondamentale pour la Calédonie, qui essaiera de traiter la question de la citoyenneté, du corps électoral, des compétences. Il ira aussi accompagné d'un projet de société, parce qu'il faut refaire cette vie commune, et aussi de projets économiques. Vous savez que le grand problème là, c'est celui de la jeunesse, qui souffre d'un système de santé qui aujourd'hui est totalement par terre, avec des risques vitaux pour les gens. Et il y aura aussi, évidemment, une proposition institutionnelle.
Une déclaration de Manuel Valls qui est donc attendue le 29 avril en Nouvelle-Calédonie. Cette prochaine visite du ministre des Outre-mer, les discussions sur l'avenir institutionnel et la recherche d'un accord, c'est le thème de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. On la retrouve un mardi puisqu'hier c'était un jour férié à l'occasion du lundi de Pâques.
Et maintenant, que va-t-il se passer? C'est la question lancinante qui hante tous les Calédoniens à quelques jours du retour de Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer sera là d'ici une semaine et il doit passer une dizaine de jours sur le territoire avec l'objectif affiché d'aboutir à un accord global ou au moins à un compromis global sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Il l'a écrit dans un communiqué. Il se félicite de la méthode co-construite qui a permis de restaurer la confiance. Il affirme que l'État a pris ses responsabilités en soumettant un projet d'accord global qui est une base de négociation. Et il met la pression sur ses partenaires calédoniens en soulignant que nous sommes à un moment historique, décisif pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. En clair, malheur à ceux qui refuseront de signer un accord alors que la Nouvelle-Calédonie fait face à une situation économique et sociale particulièrement grave et alors que la paix reste fragile. Mais le ministre reste lucide et il ajoute que le chemin vers un accord demeure exigeant, que les positions sont encore éloignées, mais que des évolutions sont possibles. Les positions sont encore éloignées. C'est au mieux un euphémisme. Quand on sait que les uns veulent que la Calédonie inscrive définitivement son avenir dans la France et que les autres ne veulent que d'une trajectoire qui les mènera à la pleine souveraineté. Et l'objectif de Manuel Valls est d'autant plus ambitieux qu'entre-temps, l'UCF-LNKS aura réuni sa convention le 26 avril pour donner leur feuille de route à ces négociateurs qui ne sont pour l'heure que des discuteurs. On ne sait pas bien sûr ce qui sortira de ce rendez-vous de la mouvance indépendantiste, mais les déclarations de ses représentants, et notamment d'Emmanuel Tchibaou, laissent dubitatif. Il déclare être prêt à un accord si celui-ci confirme la trajectoire vers la pleine souveraineté. Alors que va-t-il se passer lors de la venue de Manuel Valls? Sauf miracle improbable, on ne voit pas, malgré le souhait du ministre des Outre-mer, quelles évolutions sont possibles et surtout qui va évoluer. Mais après tout, on peut penser que ce n'est pas grave et que l'on n'est pas si pressé. C'est faux pour au moins deux raisons. La première tient à la reprise de l'économie et on a bien compris que les chefs d'entreprise ont besoin de signes de confiance. Mais on peut rétorquer qu'il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord qui plomberait à coup sûr l'économie. La seconde raison tient à l'organisation des élections provinciales. Pour qu'elles aient lieu avant la fin de l'année, on est déjà hors délai, puisqu'un accord devait être trouvé au 31 mars. Et s'il n'y a pas d'accord, il faudra reporter encore cette échéance électorale, alors qu'elle devait avoir lieu il y a un an, le 12 mai 2024, et que les élus ont déjà un mandat à durée indéterminée. Peut-on éternellement repousser le renouvellement des assemblées de province et du Congrès? Ça semble compliqué. Mais peut-on organiser des élections avec un corps électoral gelé? Ça ne semble pas possible non plus. Alors va-t-on nous reparler d'un petit accord qui ne ferait qu'entrouvrir le corps électoral? Ce n'est pas davantage acceptable. Alors que va-t-il se passer? Bien malin qui pourra le dire, et on a bien conscience qu'il ne faut pas désespérer les Calédoniens, mais en fait de trajectoire, on a surtout l'impression de tourner en rond, voire de faire du surplace.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez sur notre site internet et vous pouvez aussi la réentendre cet après-midi. Ce sera juste après le flash de 16h. 4 jours pour bâtir une réforme fiscale et sociale en profondeur. C'est l'objectif du séminaire organisé par le gouvernement sous l'impulsion de Christopher Gigès en charge de l'économie. Il s'est ouvert ce matin au CAPS de la province sud en présence des partenaires sociaux, syndicats de salariés, syndicats patronaux, fédérations professionnelles, établissements publics concernés. Il s'agit d'ouvrir un nouveau pacte de confiance, a souligné Naya Wateyu, élue à la province sud en accueillant les participants. C'est un rendez-vous crucial dans un contexte d'urgence, a poursuivi le président du gouvernement. Alcide Ponga a souligné que ce rendez-vous n'était pas une simple consultation, mais un acte de confiance vis-à-vis des partenaires sociaux et de la société civile. Il a appelé les participants à la responsabilité pour faire de ce séminaire un moment fondateur. C'est en effet tout un modèle qu'il faut repenser, a expliqué de son côté Christopher Gigès.
Aujourd'hui, on n'a plus le choix de changer de modèle et d'être en capacité d'avancer. Le modèle, on va le construire ensemble. Ce n'est pas une question de renverser la chaise. Moi, ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est qu'il faut arrêter de faire un copier-coller avec le niveau national, avec des normes et des taxes qui se cumulent et qui pénalisent l'économie calédonienne. Et en tout cas, on souhaite vraiment avoir ce travail en commun pour construire notre modèle économique qui recrée de la croissance, qui recrée du profit et qui permet de recréer de l'emploi.
Un thème sera développé chaque jour pendant ce séminaire et c'est la réflexion sur l'emploi, notamment la recherche d'une meilleure adéquation offre-demande qui va occuper les débats aujourd'hui.
Déjà, c'est permettre aux Calédoniens de retrouver un emploi parce que l'emploi, c'est vraiment le premier moyen d'avoir du pouvoir d'achat et de lutter contre la vie chère. Et c'est aussi que l'emploi paye mieux. Et donc ça, on a une vraie volonté de travailler avec les différents partenaires sociaux pour trouver des solutions qui soient pragmatiques mais surtout qui soient efficaces. Et donc, c'est véritablement l'objet de ces prochains jours de conférence. Des pistes concrètes, elles seront proposées quand on aura validé les choses avec les partenaires sociaux. On a vraiment cet esprit collaboratif de travailler avec la société civile et le monde politique. Donc on verra à l'issue de la conférence et peut-être quelques jours après, mais en tout cas on veut être pragmatique et efficace.
Le travail nécessite de la confiance, particulièrement vis-à-vis des partenaires sociaux qui souhaitent de la prudence avant toute communication sur les résultats de ce séminaire. C'est ce qu'a dit le président de l'UTCFE-CGC, Christophe Coulson, qui a demandé à prendre la parole au début des débats au nom de toutes les organisations syndicales.
On est tout à fait en phase avec une réforme de notre modèle économique et social. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est complètement à côté de ce que l'on peut imaginer. Mais toutefois, en précisant que dans la méthode de travail, il est important pour nous de travailler sur des trajectoires, mais aussi de consulter nos adhérents avant de rendre une réponse favorable ou non sur les différents projets.
Pas de déclaration ou pas d'annonce intempestive?
Exactement ça, parce que c'est ce qui nous fait peur un petit peu et c'est ce qui s'est passé lors de la la dernière réforme du RUAM et de la CCS, ça a été fait sans que nous ayons été vraiment consultés sur le sujet.
Après cette première journée sur l'emploi, le séminaire se poursuivra demain sur le coût du travail, la compétitivité et le pouvoir d'achat. Le troisième jour sera consacré à la réforme sociale. Vendredi, les participants dresseront le bilan de leurs travaux qui devront prendre en compte la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, a rappelé Christopher Gigès.
On a des efforts à faire au niveau des dépenses publiques de la Nouvelle-Calédonie et on l'a toujours dit, nous sommes contre l'augmentation de la pression fiscale et nous sommes pour faire des efforts sur les dépenses publiques de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si c'est des sacrifices, mais en tout cas, c'est une nouvelle façon de voir des choses qui est réaliste avec la situation que nous connaissons. Le fait de recréer de la croissance grâce à de la confiance nous permettra à terme de retrouver des services publics de qualité, mais en tout cas, on a ce travail à mener.
Et tout ce travail doit donc permettre de réformer en profondeur le système fiscal et social. Les textes qui en seront issus seront soumis au vote des élus du Congrès dans les semaines et les mois à venir. À 11h52, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité sur le territoire.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Profitez d'une offre exceptionnelle chez Jardiland Nouméa. Du 16 avril au 4 mai, ce sont deux sacs de terreau 50 litres bio achetés, égale un offert. Un terreau 100% naturel, riche en nutriments, idéal pour donner à vos fleurs, légumes et arbustes une croissance éclatante. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Envie de faire des travaux? Besoin de changer de voiture? Vous rêvez de loisirs et de voyages? Alors écoutez bien. Jusqu'au 30 juin, à la BNC, votre crédit conso, c'est zéro frais de dossier. Zéro. Vous avez bien entendu. C'est le moment de se faire plaisir. Contactez vite votre conseiller pour découvrir toutes nos offres du moment ou rendez-vous sur bnc.nc.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social, 10 avenue du Maréchal Foch, 98 849, Nouméa CEDEX, RCS, Nouméa 74B 047 688, plus coût de connexion selon votre opérateur.
Vous voulez faire une pause ou simplement vous détendre? Le Ramada Sports Bar innove avec son menu piscine du lundi au samedi de 9h à 16h, au tarif incroyable de 4000 francs par adulte et 2000 francs par enfant. Renseignements au 23 90 41, info Facebook Sports Bar.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le réseau de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, on retrouve Jean-François Baudin.
Une cérémonie intimiste ce matin, place Bir Hakeim. L'association des compagnons du devoir de mémoire, gendarme esprit de sacrifice, a organisé un dépôt de gerbes à l'occasion du 22 avril, Nicolas Legrand.
Oui, une cérémonie sobre mais solennelle devant le mémorial dédié aux gendarmes et militaires morts en service commandé en Nouvelle-Calédonie. Ce dépôt de gerbes était organisé pour rendre hommage aux gendarmes qui ont été victimes de l'attaque de la gendarmerie de Fayaoué à Ouvéa le 22 avril 1988. Une occasion aussi de se recueillir et de saluer la mémoire des autres gendarmes qui sont allés jusqu'au sacrifice de leur vie en service. Écoutez le colonel Bayarja, commandant second de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
C'est toujours important, on a un métier compliqué, un métier qui parfois peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Et c'est important pour nous d'honorer tous ceux qui sont tombés pour la gendarmerie, tous ceux qui ont fait sacrifice pour les autres, qui ont donné leur vie pour les autres. Et c'est important pour nous d'être présents. C'est d'autant plus sensible depuis avec l'année 2024 où effectivement nous avons perdu deux de nos camarades en Nouvelle-Calédonie. Donc ça redonne une nouvelle dimension à cette cérémonie de d'hommage aux gendarmes qui sont décédés.
Et cette cérémonie était organisée à 9h, place Bir Hakeim, par les compagnons du devoir de mémoire gendarme esprit de sacrifice, une association présidée par un gendarme retraité, Bernard Godel.
Elle a une grande importance pour nous retraités de la gendarmerie, parce qu'elle nous rappelle quand même le sacrifice de 5 de nos gendarmes et de gendarmes qui ont été pris en otage à l'époque. Donc ça a été une période assez difficile, cruelle pour les familles. C'est une époque qu'on croyait révolue. Et malheureusement, les événements du 13 mai ont fait que nous avons encore perdu deux gendarmes, dont un dans une condition tragique, puisqu'il a été tué par balle. Et on ne cesse de rappeler que, de toute façon, la paix, mais la paix est difficile à instaurer en Nouvelle-Calédonie. Et ce sont les forces de l'ordre qui payent le plus lourd tribut, quoi qu'on en pense. Pour moi, c'est un sacrifice, c'est une perte de vie humaine, c'est un drame pour leur famille, c'est un drame pour leurs camarades. Donc, en fait, chaque fois qu'on dépose une gerbe, on a le cœur qui bat un peu plus vite. On pense que nous, les retraités, on a échappé. Mais nos camarades ont payé pour nous.
Et l'association organise une dizaine de dépôts de gerbes chaque année pour commémorer certains anniversaires, notamment de la disparition des 48 gendarmes morts en Nouvelle-Calédonie.
Combien y a-t-il d'habitants en Nouvelle-Calédonie ? Le recensement a débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire. Jusqu'au 22 mai, les agents de l'ISEE vont effectuer le recensement de la population, Léo Fichou.
Oui, le territoire a été réparti en 17 secteurs, dont 6 sur Nouméa. Ce matin, j'ai pu suivre Jacob, agent recenseur à Magenta, Wemo, Porte de Fer et Aérodrome. Il fait partie d'une équipe de 11 agents. Le recensement, c'est une première pour lui, mais il sait à quel point c'est important pour le territoire.
Déjà, le recensement, c'est un bon outil pour nous, pour la population. Je trouve que c'est important de le faire parce qu'en ce moment, il y a des soucis un peu par là, par-ci, par-là. Ça peut aider à sortir de ça, quoi. Moi, ce matin, je vais chez les particuliers, je vais chez des personnes pour leur poser des questions et savoir à peu près combien ils sont dans chaque logement. Déjà, je me présente et je leur explique à peu près la démarche, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Il est important que j'ai ma tenue, c'est-à-dire mon chasuble. Et le plus important, c'est ma carte, c'est-à-dire qui est accrochée autour de mon cou, qui certifie que je fais bien partie des agents recenseurs.
Et malheureusement, de nombreux appartements sont vides. Ce matin, les propriétaires ou locataires seront tout de même avertis du passage de Jacob et des autres agents recenseurs. Ils pourront prendre rendez-vous directement par téléphone. Piment était, lui, à domicile ce matin. Il a répondu volontiers aux questions, un moment d'échange et de partage qu'il a apprécié.
Non, c'est un super gars, un jeune qui a de l'avenir. Et puis, je lui ai offert même le café. Je passe un bon petit moment avec lui. Je pourrais répondre à toutes les questions qu'il voulait. Et j'ai bien aimé, on a partagé deux, trois petits trucs ensemble.
Une question que j'ai retenue un peu basique, je demande si on avait un toilette dans l'appartement. Là, j'ai rigolé un peu. Non, sinon, c'est très bien, ça fait du travail pour les jeunes, quoi.
Et en cas de doute sur l'identité d'un agent, un numéro vert a été mis en place par l'ISEE. Il s'agit du 05 20 00 05 20 00. Je rappelle que lors du dernier recensement en 2019, la Nouvelle-Calédonie comptait 271 407 habitants.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Êtes-vous impatient de connaître les résultats du recensement pour savoir combien nous sommes d'habitants en Nouvelle-Calédonie ? Si vous êtes impatient, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. L'UNC mise aussi sur la formation continue. L'Université de la Nouvelle-Calédonie va lancer prochainement 3 formations. Une capacité en droit, un certificat d'université en médiation civile, commerciale et du travail ou encore un diplôme travail social en contexte océanien. Laurence Levert, directrice de la formation continue à l'UNC, est venue nous en parler ce matin à 7h30.
Ce sont les personnes qui sont plus dans le cursus scolaire classique, qui sont en activité, travailleurs indépendants, salariés, qui sont aussi retraités. Toutes les personnes qui souhaitent reprendre des études ou acquérir des compétences, soit pour obtenir un diplôme ou tout simplement monter en compétences sur des spécificités, et notamment des spécificités du territoire. C'est un enjeu important pour l'université, mais aussi à l'échelle du territoire tout simplement. On parle de monter en compétences, donc ça concerne tout le monde. Les gens, dans leur quotidien, ont besoin de monter en compétences, ont besoin d'acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles manières de faire les choses. Je pense que c'est un enjeu à l'échelle effectivement du territoire.
Laurence Levert, directrice de la formation continue à l'UNC, était accompagnée d'Adrien Blasi, ingénieur de formation. Tous les renseignements sur ces formations sont à retrouver sur le site internet de l'UNC ou alors en composant le 290-491. Le 290-491. 11h59, on va refermer ce journal dans un instant avec l'actualité sportive et on se retrouve ensuite pour le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Besoin d'une clôture ? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Ce sont les semaines des alliances chez Creator. Jusqu'au 23 avril, profitez de moins 40% sur la deuxième alliance de votre duo. Rendez-vous dès maintenant dans l'une de vos 3 boutiques Creator, Alma, 7e ou Païta. Creator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et parlons d'abord des mini-jeux du Pacifique qui ont lieu dans un peu plus de 2 mois. Les différentes disciplines n'ont plus que quelques jours jusqu'au 1er mai, Léo Fichou, pour envoyer la liste des athlètes sélectionnés au CTOS.
Oui, des mini-jeux du Pacifique à Palau en format réduit pour la délégation calédonienne puisque seulement 8 disciplines seront représentées, on le sait hein, depuis déjà plusieurs semaines, la faute à un budget réduit. Le CTOS a donc misé sur l'athlétisme avec l'handi-athlé, mais aussi le tennis de table, le triathlon, la natation, l'haltérophilie, le volley et le beach volley. Christophe Dabin, président du comité territorial olympique et sportif, rappelle aux différentes disciplines qu'elles n'ont plus que quelques jours, jusqu'au 1er mai effectivement, pour envoyer la liste des athlètes sélectionnés. Une fois les listes reçues, le CTOS réunira son CA pour valider ou non les athlètes calédoniens qui partiront du 29 juin au 7 juillet prochain à Palau.
Et puis à 2 mois maintenant de la Groupama Race, les équipages calédoniens qui vont participer à cette course ont participé ce week-end à une régate. Toute la flotte est enfin arrivée.
Les 17 équipages étaient partis de la baie des Citrons samedi matin, direction le nord jusqu'à Bouraille. Après 2 jours de course, il ne restait plus que 2 équipages en mer. Finalement, toute la flotte est bien arrivée. Le dernier a passé la ligne hier après-midi. Lucas Malige est responsable de la base de voile et directeur de la course.
La plus grande difficulté pour les concurrents, ça a été les nuits. Avec du vent faible, on subit d'autant plus la houle. On a du mal à avancer, il faut être très concentré, au taquet tout le temps pour éviter de tomber dans les zones où il n'y a vraiment pas de vent, chercher la moindre risée, se battre en continu pour avoir les bonnes voiles à tout moment. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le choix tactique, puisque les concurrents devaient donc sortir du lagon et y re-rentrer, mais ils n'avaient pas d'obligation sur quel passe prendre pour rentrer ni pour sortir. Donc on a vu au travers de la flotte beaucoup de choix différents. Certains qui ont fait tout à l'extérieur dès le phare Amédée et qui sont rentrés très vite. D'autres qui ont viré la bouée au niveau du phare mais qui sont tout de suite rentrés dans le lagon, qui sont ressortis un peu plus tard. Donc plein d'options différentes, très intéressant à suivre et le classement devrait arriver dans la journée ou demain.
Une régate en guise de préparation à la course que tout le monde attend, la Groupama Race. On retrouve Lucas Malige.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était pour l'occasion pour les équipages de se mettre en mode offshore, en mode large, en mode navigation en car, avec de la nuit, du jour, de la nuit, mais faire marcher le bateau à 100% du temps. Et donc ouais, c'est une bonne petite préparation pour la Groupama qui devrait durer entre 4 et 6 jours en fonction du bateau.
Le top 3 provisoire en temps réel est composé, je le rappelle, de l'équipage MLS FCD Poulpito devant BNC Lyon et Speed Marine MSC Guilty Pleasure. De son côté, la Groupama Race s'élancera le 15 juin depuis Nouméa.
Midi 3, c'est la fin de ce journal.